Les podcasts de Radio Vatican.
C'est un des mouvements de défense des droits de l'homme les plus emblématiques du siècle dernier, qui ne cesse d'inspirer en Argentine et ailleurs en Amérique latine. Les mères et grands-mères de la place de Mai célèbrent leurs 40 ans de combat cette année. Il y a 40 ans, en effet, en 1977, 14 femmes ont commencé à se retrouver place de Mai devant le palais présidentiel à Buenos Aires, occupé par la junte militaire du général Videla, depuis le renversement du gouvernement d'Isabel Perón, le 24 mars 1976. Denis Merklen est professeur à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine à l'Université Sorbonne Nouvelle, spécialiste de l'Argentine. Il revient avec Marie Duhamel sur l'origine de ce mouvement.
C'est dans le contexte de la dernière dictature militaire que l'Argentine a connue. Il y a eu un coup d'État le 24 mars 1976 et ce régime totalitaire, disons, s'est caractérisé par une très forte répression et l'instauration d'un terrorisme d'État qui a été très important parce que il a quelque part inventé une méthodologie de la terreur d'État qui consistait dans la disparition, ce qu'on a appelé bien plus tard, la disparition forcée des personnes, c'est-à-dire que les militaires, pour la première fois, agissaient dans la répression de manière clandestine et pas en plein jour. Et donc il se passait que des jeunes de toutes tendances politiques, syndicales, de mouvements sociaux, etc., étaient séquestrés dans la clandestinité et on ne connaissait plus où ils étaient. Et donc ces mères sont des mères qui, au tout début, ont commencé à se mobiliser simplement en allant dans les commissariats de police, dans les hôpitaux, à la justice, en faisant des recours, etc., pour demander où étaient leurs enfants. Et donc la seule réponse des institutions était « Eh bien, ils sont disparus, on ne sait pas où ils sont ». C'était à l'époque évocateur simplement d'un disparu en mer, par exemple un bateau qui part, il y a quelqu'un qui tombe à l'eau et on ne retrouve plus son corps et donc on dit qu'il est disparu. Cette figure-là qui était évoquée de manière très cynique par les institutions de l'État. Et c'est ça, le début de ce mouvement, c'est simplement un groupe de mères qui se rencontrent en faisant des démarches pour trouver leurs enfants, leurs fils, qui étaient la plupart du temps des très jeunes gens, des personnes de 20 ans ou souvent bien plus jeunes encore. Et donc, ils commencent à se rencontrer dans ces lieux et ils commencent à se réunir au tout début dans une église, aidés par des sœurs principalement, et qui vont après comprendre ce qui est en train de se passer et décider assez vite de se retrouver à la place de Mai, qui se trouve devant le palais présidentiel à Buenos Aires. Et elle ne faisait rien d'autre que faire une ronde autour du monument principal de cette place tous les jeudis. Et donc elle tournait autour de la pyramide, pris bras dessus, bras dessous, un foulard blanc autour de leur tête à l'époque, en 77. C'est comme ça que les femmes en Argentine souvent s'habillaient quand elles sortaient faire leurs courses, etc. Donc elles mettaient un foulard blanc pour se reconnaître entre elles parce qu'elles ne se connaissaient pas. Et c'était leur signe de distinction et c'est devenu aujourd'hui l'emblème de ce qui serait plus tard effectivement le plus important mouvement des droits de l'homme de l'Amérique du Sud et l'un des plus importants dès la fin du XXe siècle.
Est-ce que c'est plus un instinct en tout cas qu'une conscience politique qui les font agir?
Le début des années 70 en Argentine et les années 60, c'est une époque de révolte juvénile. On est dans la suite de mai 68, la guerre de Vietnam, etc. Donc il y a beaucoup de mobilisation de jeunes, de la guérilla et de la prise des armes jusqu'au mouvement d'étudiants, syndicaux, d'associations, de partis politiques, etc. C'est un contexte de très grande mobilisation sociale. Mais la génération qui précède, donc celle des mères, n'était pas dans la même mouvance. Donc pour la plupart de ces mamans, elles vont se politiser dans ce mouvement et dans la quête de leurs enfants. Une des fondatrices du mouvement, célèbre Eve de Bonafini, a maintes reprises dit « Ce sont nos enfants qui nous ont appris la politique, mais une fois qu'ils n'étaient plus avec elles, en cherchant leurs enfants, puis en faisant une demande de justice, parce qu'elles ont fini par apprendre et par accepter que ces disparitions n'étaient pas des vraies disparitions, mais des séquestrations suivies des tortures et des morts, et un plan de détermination d'opposants du point de vue du régime, eh bien, elles se sont politisées, et elles ont connu un peu l'idéologie de leurs enfants, qui étaient d'idéologies très diverses, hein, qui allaient des gauches marxistes, trotskistes, guevaristes, bon, tous les mouvements de gauche de l'époque, jusqu'à des mouvements chrétiens, des mouvements péronistes pour le cas de l'Argentine, ou des gens plus ou moins mobilisés de manière assez innocente, dans l'immense majorité des cas, en fait. Les vrais militants durs étaient probablement une très petite minorité.
Elles ont encouru, en faisant leur ronde Place de Mai, des risques sérieux. Et dans le même temps, leur mouvement a perduré. Pourquoi ?
Dans un premier temps, le pouvoir agit, comme pour tout le reste, par une infiltration de ce premier groupe de mères qui se retrouvent dans cette église, accompagnées des deux sœurs françaises qui les soutenaient. Et un militaire, un marin, hein, a infiltré ce groupe en se faisant passer par le frère d'un disparu. Et donc la première présidente de l'association des mères de la Place des Mai et les deux sœurs françaises, on n'a plus jamais retrouvé leur corps. Donc elles ont subi la répression. Après ce premier moment, on ne sait pas trop pourquoi le régime va tolérer quelque part ce mouvement, parce que probablement il a essayé de se servir de ce mouvement pour se légitimer lui-même. Hein. Les maires de la Place des Mai ont été, dans un premier temps, considérées comme les folles, las locas. Effectivement, elles étaient dans une situation d'angoisse très importante, de colère, voilà. Et donc elles criaient, elles demandaient le sort de leurs enfants, elles pleuraient dans la plus grande émotion, donc elles ont été traitées de folles. Et notamment, on peut se souvenir d'un moment particulier, c'est la Coupe du monde de football qui a lieu à l'Argentine en 1978, donc en plein période de répression et période la plus dure du régime, un an après la fondation de l'association. Et il y a toute une campagne de presse, y compris à l'international, de journalistes de radio, de la presse écrite, de la télévision, qui parlent des maires de la Place des Mai qui commencent à se faire connaître comme étant des folles. Donc on va culpabiliser ces mamans en disant qu'elles n'avaient qu'à s'occuper de leurs enfants sont peut-être dans la clandestinité, ils sont partis en Europe. Voilà, on a dit toutes sortes de choses en essayant de les discréditer plutôt que d'exercer une répression physique violente directe.
Et est-ce que ce n'est pas pour autant ces femmes qui ont réussi à éveiller l'attention de la communauté internationale sur ce qui se passait en Argentine ?
Oui, elles ont joué un rôle primordial, probablement parce qu'elles n'étaient pas politisées, elles n'étaient pas le membre d'une organisation politique, elles n'étaient pas des opposantes au régime au sens d'appartenir à un autre courant politique, elle venait témoigner et simplement elle disait « Mon fils, il est allé travailler » ou « Ma fille allait à l'université, ils l'ont pris, j'ai appris par des témoins qu'elle était dans le métro, ils l'ont arraché du métro. » Voilà. Et donc elle ne faisait rien d'autre que dire leur lien de filiation et la douleur qui était la leur et la volonté du régime. C'était justement d'insuffler une peur collective importante dans la population, y compris après avec la séquestration, la disparition, mais pas la mort, des enfants des enfants. Parce que dans beaucoup de cas, les jeunes filles étaient séquestrées enceintes ou avec des jeunes bébés dans leurs bras. Et le régime a volé ces enfants et il les a donnés à d'autres familles. Dans de nombreux cas, des familles de tortionnaires, hein, des policiers, des soldats du régime ou des personnalités amies du régime. C'est comme ça que le mouvement des grands-mères de la Place des Mai va apparaître quelques années plus tard. Et quand, déjà en démocratie, c'est-à-dire après 1983, les grands-mères commencent à retrouver des enfants, il y a un grand moment de vérité qui se produit à cet instant-là, parce que les tests génétiques prouvent que ces enfants ont été volés, que leur mère a été tuée et que l'identité de l'enfant a été sciemment falsifiée. Et donc, naîtra encore plus tard, quand ces enfants deviendront des adultes, le mouvement des enfants, hein, hijos.
Vous avez parlé des retrouvailles entre les grands-mères et les petits-enfants. Ces mères ont manifesté pour pouvoir obtenir des nouvelles de leurs enfants. Pour quel résultat est-ce que ça a été payant ?
Bon, il y a environ 500 bébés séquestrés par la dictature, dont l'identité a été récupérée et qui, pour la plupart, se sont retrouvés avec leur famille d'origine. Le dernier cas en date, c'est le petit-fils de la présidente des grands-mères de la place des Mai, et la Carlotto, qui a retrouvé son petit-fils, quasiment 40 ans après. C'est un jeune homme qui vit en Argentine, qui était devenu musicien. Et dans la plupart des cas, ce sont des enfants qui ignorent tout et qui, devenus adultes, commencent à se poser des questions parce que les vraisemblances physiques ne sont pas là, parce qu'ils entendent des histoires, parce que tout ceci est maintenant public en Argentine. Ils se posent des questions et donc ils vont à la justice, ils se présentent, ou ils vont voir les grands-mères de la place des Mai, ils se présentent pour faire des tests génétiques. Et c'est à ces moments-là qu'on peut avoir la preuve de qui ils sont. Donc c'est payant, quelque part. C'est extraordinaire, d'une part, pour elle-même, pour les enfants, et pour la société toute entière, parce qu'un moment de vérité se produit, et les exactions du pouvoir sont connues, et tout cela, quand c'est inconscient, dans le doute, dans la suspicion, etc., occulte toute une partie de douleur collective. Il faut penser qu'on parle de dizaines de milliers de disparus. Et donc, c'est effectivement très important. Ça a eu un impact international très important. La justice a typifié le délit des disparitions forcées des personnes comme une méthode reconnue et punie par la loi, qui n'ont pas de prescription, contrairement aux crimes de droit commun. Donc il y a toute une série d'avancées et d'impacts de ce mouvement. Les équipes d'anthropologie légale, par exemple, de l'Argentine, sont mondialement connus, ils ont contribué en Afrique du Sud, au Liban, en Europe de l'Est, dans leur travail de recherche des corps, d'établissement de la vérité. Bon, il y a tout un savoir-faire, une technologie qu'ils sont développés. Il y a toute une série de faits et de progrès qui résultent de ce mouvement des droits de l'homme qui naît suite à un traumatisme en Argentine.
40 ans plus tard, est-ce que vous diriez que le combat reste le même, qu'il est toujours d'actualité? Et bien sûr, on n'est plus du tout dans un contexte de dictature, mais justement, justicier les auteurs de violences, les tortionnaires, veiller à ce qu'ils soient toujours emprisonnés ou qu'ils payent pour leurs crimes, la recherche d'enfants, c'est quelque chose qui est encore à conjuguer au présent?
Oui, en Argentine, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de cas qui sont inconnus, impunis, etc. Par exemple, en France, nous avons en ce moment le cas d'un supposé tortionnaire du plus grand centre clandestin de séquestration des disparitions, dont l'extradition est demandée par l'Argentine, qui est considérée responsable de la séquestration et la disparition de quelques centaines de cas. Et la justice française ne s'est toujours pas prononcée, donc vous voyez que c'est d'actualité. Et puis, il faut rappeler un cas de la première actualité en ce moment en Argentine. Lors d'une manifestation en Patagonie, un jeune disparaît. Santiago Maldonado disparaît lors d'une répression de la gendarmerie envers des Indiens Mapuches qui réclamaient pour leurs terres devant la propriété Benetton, une immense propriété, et un jeune disparaît. Et donc s'est créée une immense émotion populaire, une demande avec la même consigne inventée par les maires de la place de Mai, Aparición con vida, nous voulons qu'ils reviennent vivants. Et donc une crise politique commence. Bon, maintenant, un mois et demi plus tard, le corps a été retrouvé dans un fleuve. L'autopsie est en cours. On ne sait pas encore ce qui s'est passé, mais cette émotion populaire et cette demande sociale est très salutaire parce qu'il y a quelque chose qui est acté dans la démocratie argentine et qui a été une conquête extraordinaire, c'est qu'on ne peut plus faire de la politique en tuant quelqu'un. Ce n'est plus possible. Et cette prise de conscience qui est l'une des fondations les premières de la démocratie argentine, on la doit à ces mouvements des droits de l'homme. On le doit à ce mouvement, quoi qu'on puisse en penser et quoi que l'on puisse dire, et quelle qu'ait été l'évolution du mouvement social, qui a été variée. Les maires de la place des Mai se sont divisés, il y a des courants, bon, il y a des tas de choses, mais ça, c'est un acquis Il y a un impact, y compris sur les pays voisins. Je pense à l'Uruguay. Il n'a pas connu ce mouvement ni une répression de telle ampleur pendant la dictature uruguayenne. Mais il y a une centaine de cas de disparus. Et donc, on continue à réclamer, suivant un peu la voix des mères et des grands-mères de l'Argentine qui rayonnent au-delà de leurs frontières. Et ça, je pense que c'est très salutaire, effectivement.
Des propos recueillis par Marie Duhamel.